Alors nous continuons ce matin une série de prédications que nous avions commencé en septembre, ça commence à dater, sur la deuxième lettre que Paul écrit à Timothée. J'ai trouvé des photos de Paul sur Internet, j'en ai pas trouvé de Timothée, mais j'ai trouvé que Paul était toujours représenté un petit peu avec un air pas commode, patibulaire mais presque, surtout la petite image avec son œil en coin, qui semble vous observer de côté. Alors, nous avons donc commencé cette série par une introduction où j'ai présenté les deux protagonistes, Paul, le vieux Paul qui a au moins 65 ans et qui est pas loin de la retraite à taux plein, et Timothée, le jeune Timothée, au moins 30 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul est en prison à Rome et que c'est la dernière lettre qu'il va écrire, puisqu'il va mourir en prison, exécuté, semble-t-il. Et donc, cette deuxième lettre de Paul à Timothée fait figure de testament spirituel de Paul pour son enfant dans le Seigneur, Timothée, qui est un peu timide, qui est responsable de l'église d'Éphèse, en Turquie, et qui est désigné comme étant un petit peu timide. C'est peut-être pour cela que, dans un premier temps, Paul va encourager Timothée à ranimer la flamme de Dieu, du don de Dieu qui est en lui, qu'il a reçu par imposition des mains. Et ça nous a rappelé, et peut-être qu'il faut nous le rappeler en ce début d'année 2023, l'importance de ranimer notre flamme pour Dieu, d'avoir une flamme vive pour lui. Peut-être que notre flamme est un peu rabougrie, un peu éteinte. Le Seigneur nous appelle, nous encourage à la ranimer. Mais dans la vie chrétienne et dans la vie de Timothée, il y a aussi la souffrance. Inévitable, semble-t-il. Et Paul encourage Timothée à persévérer dans la souffrance, malgré la souffrance. Et pour en parler, j'avais utilisé un terme rugbystique, le cadrage débordement. Il s'agissait de cadrer la souffrance dans des cadres chrétiens ou dans des cadres bibliques, c'est-à-dire le cadre de la normalité. Quelque part, la souffrance est normale. Ne soyez pas surpris, dit l'apôtre Pierre, je crois, d'être dans la fournaise. Ça fait partie de la vie. Dans le cadre aussi de la finalité, la souffrance pour que l'on dirige vers Dieu. Et dans le cadre de la communauté, on souffre ensemble. Recadrer la souffrance pour pouvoir la déborder, pour pouvoir la dépasser et aplatir le ballon ovale dans l'embut de la vie éternelle. Et j'aimerais continuer à parler rugby ce matin, qui est le plus beau sport devant l'éternel, après la pétanque, comme vous le savez. Et aujourd'hui, les spécialistes vous le diront, dans le rugby moderne, il faut mettre la priorité à la défense. On ne peut pas gagner si on n'a pas une défense intraitable. En rugby, on parle de rideau défensif. Il faut un rideau défensif, parfois même deux défensifs, pour que les adversaires ne passent pas et qu'on puisse regagner des ballons. Et on entend tous les entraîneurs nous dire, Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby en premier, mais tous les entraîneurs de top 14 aussi, priorité à la défense. Et on entend aussi Paul, entraîneur de disciples en tout genre, et dans le genre de Timothée, nous dire aussi priorité, lui dire priorité à la défense. Mon cher Timothée, il faut organiser la défense, il faut placer un rideau défensif, c'est une priorité pour te protéger. Pour te protéger de quoi? Et là on s'éloigne du rugby, pour te protéger de l'erreur. Et nous allons lire ensemble dans 2 Timothée 2, il me semblait bien, chapitre 14, versets 14 à 21. C'est cela qu'il te faut rappeler sans cesse. Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, quand j'ai découvert ce passage, et donc nous faisons une série sur l'épître de Paul à Timothée, la deuxième, et l'avantage d'une série, c'est qu'on parle de textes parfois un peu difficiles, un inconvénient peut-être, mais au moins on annonce tout le conseil de Dieu. Mais quand j'ai découvert ce passage, je me suis dit qu'il était certainement impopulaire, de son côté impopulaire pour les personnes du 21e siècle. Et je suis persuadé qu'à la lecture ou à l'audition de ce passage, vous avez ressenti comme un malaise intérieur. Tout cela n'est-il pas exagéré? L'heure n'est-elle pas au dialogue, à l'échange, au débat? Et Paul nous parle d'éviter les discussions folles, de se préserver de l'erreur, de maintenir le cap de la vérité, de la jouer défense. On a presque envie de dire que Paul, de parler pour Paul d'intolérance ou même de fermeture. Et pourtant, il y a d'autres passages qui sont du même ton. Je lis dans la lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean, « Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison. » Et Jean, l'apôtre Jean, est celui qui nous parle le mieux d'amour. Mais là, il rigole pas, Jean. Et dans Galates 1, je le lis, « Si quelqu'un vous annonçait un évangile différent que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Paul ne va pas avec le dos de la cuillère. Alors c'est évident, les esprits ouverts que nous sommes ont un peu de mal à assimiler ce genre de passage. Mais si nous sommes ouverts, nous sommes aussi ouverts à la Bible, à la parole de Dieu. Même si elle nous dérange un peu, nous voulons la recevoir comme ce qu'elle est, cette parole de Dieu toujours actuelle et toujours utile pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui et qui se réclament de Jésus-Christ. Alors il faut savoir quand même que nous sommes dans les années 60, nous sommes à Éphèse et nous sommes dans un contexte assez particulier. Nous sommes dans le premier siècle, dans les années 60, je viens de le dire, Jésus est mort et ressuscité dans les années 30, nous sommes 30 ans après ces événements, et donc Timothée est un jeune responsable d'une jeune église avec des chrétiens de première génération, c'est les premières églises, et ils n'ont pas grand-chose entre les mains, comme écrit, ils ont peut-être quelques épîtres de Paul, quelques lettres de Paul qui sont lues dans les réunions d'église, ils ont peut-être quelques portions des évangiles ou de l'histoire de Jésus qui circulent peut-être oralement, ils entendent parler des prédications de Pierre et de Jacques à Jérusalem, mais c'est un petit peu tout ce qu'ils ont entre les mains, et donc ils sont vraiment susceptibles d'avoir des discussions, de mettre les choses en doute, de voir des erreurs, des semi-vérités, des embrouilles qui peuvent rentrer facilement dans ces jeunes communautés chrétiennes sans défense. Et aujourd'hui, on a plus que ça. On a tout le Nouveau Testament, on a les quatre évangiles, on a les lettres de Paul, de Pierre, de Jean, etc. Et puis nous sommes 20 siècles plus tard avec 20 siècles d'expérience de la foi, de défense de la foi. Et je ne vais pas dire que nous sommes à l'abri de l'erreur, mais nous sommes un peu moins démunis que l'église d'Éphèse dans les années 60. Mais cette différence de contexte, si elle permet de mieux comprendre le ton un petit peu tranché de Paul n'enlève rien sur le fond et sur la pertinence de ce passage pour nous aujourd'hui. Nous aussi, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, et je mets ces deux mots comme synonymes, nous avons besoin d'organiser la défense contre l'erreur. Et pour le dire plus positivement, nous avons besoin de nous battre pour la vérité. Se battre pour la vérité parce que nous vivons dans un monde peut-être tout aussi difficile ou compliqué que celui du premier siècle, un monde que l'on dit post-moderne et qui diffuse largement l'idée qu'il n'y aurait plus ou qu'il n'y aurait pas de vérité absolue, c'est-à-dire une vérité qui soit vraie pour tout le monde et en même temps. Une philosophie en vogue, ça c'est notre contexte, qu'on appelle le relativisme, et qui est en passe de devenir une vérité absolue, le relativisme. Et c'est un peu un paradoxe, mais le relativisme devient tout doucement la vérité à laquelle tout le monde doit adhérer aujourd'hui. Le relativisme comme vérité absolue. Alors dans son livre « La refondation du monde » qui date du siècle passé, le temps passe vite, mais Jean-Jacques Guigbeau cite Cornelius Castoriadis, que je ne connais pas, mais c'était le prénom de mon grand-père, Cornelius, mais bref, qui nous dit, et je pense que ça reste actuel, « Nous sommes devant une collection de semi-vérités perverties en système d'évasion. Nous vivons dans un monde où se côtoient joyeusement les bavardages à la mode sur le pluralisme, le respect de la différence, ce qui est une bonne chose quand même. Mais ce monde aboutit à la glorification de l'éclectisme et la généralisation du principe « n'importe quoi va ». N'importe quoi va. On parle de nihilisme, philosophie du vide. Le nihil, c'est le néant, qui n'est pas récente, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit d'un nihilisme joyeux, sans aucune tragédie. Il n'y a rien, et c'est très bien. Toutes les vérités et les absolus ont été détruits et on danse sur les ruines. Et ce relativisme à la mode et ce nihilisme joyeux touchent ce qui concerne la foi chrétienne et nous touchent dans notre foi également. On n'a pas toujours conscience de son influence, mais ce relativisme et ce nihilisme diffusent lentement et sûrement comme un diffuseur de parfum sur une prise électrique. Et à force de respirer de ce parfum super sympa, de ce nihilisme joyeux et de ce n'importe quoi va, on en vient à se demander si la résurrection de Jésus est vraiment importante. Si la vie éternelle, le paradis, n'est pas effectivement un peu dépassé. Si le salut en Jésus-Christ est vraiment nécessaire. Si le péché est une idée qui tient la route au niveau psychologique. Si le jugement dernier n'est pas un vestige du Moyen-Âge. Et on en vient à se demander si le christianisme n'est pas simplement une idée ou une vérité parmi d'autres et qu'il ne faudrait surtout pas l'absolutiser ou même l'universaliser. Et aujourd'hui, on met surtout l'accent sur l'aspect subjectif de la foi. L'important, c'est d'y croire. Peu importe à quoi, mais l'important, l'essentiel, c'est que tu y crois. Alors, je ne sais plus quand c'était, ni où c'était, je crois que c'était dans la région d'Orléans. J'ai été un jour à ce qu'on appelait un bal des fêteurs. J'ai pris note à l'époque, mais je n'ai pas plus d'infos. Je ne sais pas ce que je faisais là, à ce bal des fêteurs, mais j'ai eu l'occasion pendant une vingtaine de minutes de discuter avec quelques intermittents du spectacle. Et ils étaient hyper cool. Ils étaient super sympas et ils ont posé des questions et on a parlé de l'église et ils ont posé des questions sur mon service ou ce que je faisais là-dedans dans l'église. Et puis, à la fin, il y en a un qui a dit « on vit un peu la même chose. Nous aussi, on a la foi. » Alors, comme je suis un lâche, je n'ai pas répondu en disant « ouais, c'est pas tout à fait la même. » Non, j'ai rien dit. Mais c'était assez révélateur. Pour être cool, faut y croire. Faut avoir la foi, n'importe laquelle. Et c'est vrai, c'est important pour les intermittents du spectacle, comme pour chacun d'entre nous, de croire en ce qu'on fait, mais c'est encore plus important de savoir en quoi on croit exactement. Le contenu de la foi me semble au moins aussi important que la démarche de la foi. C'est ce contenu qui va influencer la vie et qui va même changer la vie. Alors, dans le temps qui nous reste, j'aimerais dégager quelques points du passage qui nous parlent de façon un peu abrupte de la défense de la foi, mais je change le titre malgré tout. Et au lieu de parler de priorité à la défense, je parle de se mettre au service de la vérité. Alors, quand on lit ce passage, on peut être frappé par le nombre de références à l'utilité de la vérité. Et je l'ai appelé le principe d'utilité. Au verset 14, par exemple, les disputes de mots ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Au verset 16, ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. Au verset 21, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Pourquoi chercher à défendre la vérité et se préserver de l'erreur? Eh bien, tout simplement par principe d'utilité publique même, comme salubrité publique, d'utilité publique, parce que la vérité est utile et l'erreur est totalement inutile. Alors, ça paraît un peu simpliste, mais il vaut la peine de le rappeler, l'erreur se caractérise par son inutilité. Elle ne produit rien, elle ne mène à rien, sinon à la ruine de ceux qui l'écoutent et de ceux qui la transmettent. Il y a une stérilité absolue de l'erreur en ce qui concerne la foi. L'erreur ne sauve pas, l'erreur ne donne pas d'espérance, l'erreur ne donne pas de vie éternelle. Il y a eu pendant tout un temps à Bruxelles des églises qui s'appelaient les églises protestantes libérales. Libérales, pas dans le sens politique du terme, mais dans le sens d'un relativisme absolu. C'était des églises protestantes où on ne croyait plus en rien. Même Dieu, l'existence de Dieu n'était plus une vérité absolue. On parlait même, selon la théologie du même nom, de la mort de Dieu. Que peut produire ce genre d'église ? Et je ne veux pas juger, même si je le fais un peu. Mais j'étais jeune homme à l'époque, et je peux vous dire qu'elles n'ont rien produit dans ma vie, et je ne pense pas dans la vie des autres aussi. Peut-être qu'elles pouvaient produire au niveau culturel des valeurs protestantes, de l'histoire protestante, mais au niveau du salut et de la vie nouvelle en Christ, en ce qui concerne le changement du cœur de l'homme, pour parler d'un Dieu qui transforme, pour libérer de l'emprise du mal universel et personnel, elles n'apportaient rien du tout. Un message tout à fait creux et stérile. Et quand Jésus nous parle de l'évangile, dans l'évangile de la vérité, il nous dit qu'elle libère. La vérité vous rendra libre. Et à l'opposé, l'erreur enferme, emprisonne dans la culpabilité, le désespoir, la tristesse, dans une sorte de brouillard qui oppresse. Et nous voulons, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, être porteurs de cette vérité. Et nous protéger de l'erreur, nous voulons au contraire rester, nous voulons être utiles, nous voulons nous mettre au service de la vérité, tout simplement par principe d'utilité publique, pour que la vérité de l'Évangile soit utile pour tous. Et puis, deuxième point, dans la défense de l'Évangile, de la vérité, et de bien savoir ce qu'il faut défendre, exactement. Alors à Éphèse, c'est la résurrection qui est en jeu. Hyménée et Philippe se sont écartés de la vérité. La Nouvelle Bible Seconde traduit « sont passés à côté de la vérité » en disant que la résurrection est déjà arrivée. Alors, on connaît très peu ces deux personnages, Hyménée et Philippe, mais on pense qu'ils agissent sous l'influence de la philosophie grecque de l'époque qui méprisait la matière, qui méprisait donc le corps humain. Et donc, il y avait tout un courant dans l'Église chrétienne, la jeune Église chrétienne, qui a mis en doute la résurrection corporelle de Jésus et des chrétiens, et qui l'a transformée en résurrection spirituelle. Pour ces croyants, sous influence de la philosophie grecque, la vie nouvelle en Christ, la vie spirituelle en Christ, était la seule résurrection à attendre. On est déjà, disent-ils, ressuscité avec Christ spirituellement. Et on assiste quasi en direct à la formation d'une erreur que l'on peut appeler doctrinale. C'est important, la doctrine. Tout part d'un désir d'éviter le scandale ou un décalage culturel. Et l'on va trouver un compromis qui permettra de garder le principe de la résurrection, mais en la spiritualisant et donc en la vidant de son sens, de sa puissance, de sa force d'espérance. Et donc Paul demande à Timothée de servir la vérité et d'organiser la défense sur un point essentiel et de se préserver de l'erreur sur une question essentielle pour la foi. Et on ne parle pas ici de la longueur des cheveux admise dans l'Église, ou de savoir si un chrétien peut écouter de la musique techno, ou s'engager dans la politique, toutes des questions peut-être intéressantes que l'on peut débattre, et d'autres encore que je ne citerai pas, mais pas essentielles. Quand Paul parle de défense, c'est sur des questions essentielles. Quand il jette l'anathème dans Galates 1.1, c'est sur l'Évangile, quelqu'un qui présenterait un autre évangile. Alors, évidemment, on se demande ce qui pourrait être essentiel. Et je vous propose une petite liste des choses essentielles. Et je me suis aperçu en faisant cette petite liste que je me rapprochais franchement du symbole des apôtres, du credo, et même de la confession de foi de nos églises évangéliques libres. Mais voilà, allez, j'ose vous lancer cette liste. Le Dieu, l'importance de la Trinité, le Dieu trinitaire, personne, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, une seule nature divine. La révélation de Dieu dans sa parole, Dieu parle et se révèle dans l'Écriture. Toute Écriture, 2 Timothée 3,16, est inspirée de Dieu, est utile pour convaincre, pour redresser, pour instruire dans la justice. Le salut par la foi en Jésus-Christ, le salut. Acte 4.12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La croix, l'importance de la croix, où il meurt pour nous, pour nos fautes, et la résurrection, et les morts en Christ ressusciteront. Le jugement, hein? le jugement dernier, peut-être le point un peu plus difficile, mais le symbole des apôtres en parle, la Bible en parle, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit l'Épître aux Hébreux. Et puis, la vie éternelle, c'est Jésus qui en parle, celui qui croit en moi à la vie éternelle. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, mais je crois bien que l'essentiel y est. Alors, attention, il faut bien comprendre que cette liste n'est pas là pour obliger tout le monde à croire point par point et puis passer les gens à la question comme ils faisaient dans l'Inquisition. La question, c'est la torture pour qu'ils puissent dire qu'ils sont hérétiques ou les accuser de sorcellerie. Non, il s'agit de dégager l'essentiel de la foi chrétienne, la partie non négociable pour moi, pour chacun d'entre nous, pour que l'on puisse se dire « Là, je vais me préserver de toute relativisation, de toute édulcoration, je veux être utile pour Dieu et je veux être vigilant par rapport à ce fondement, comme le dit notre texte. » Et puis cette liste nous permet quand même peut-être de faire un examen personnel pour savoir où on en est par rapport à la foi. Il y a Paul qui le dit encore. « Examinez-vous et voyez si vous êtes dans la foi. » Et si vous avez des problèmes avec l'un des points, peut-être vous pouvez en parler au groupe de maison, vous pouvez venir m'en parler, vous pouvez, en toute liberté, on peut en discuter. Mais voilà. Un autre point que je voulais souligner, c'est son côté, un point qui se dégage du texte, et vous l'avez remarqué, c'est son côté très ferme. On pourrait presque même dire radical. Il utilise des verbes très forts, Paul, évite, écarte, repousse, et au verset 19, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice, de l'erreur. Et donc, dans ce grand nihilisme joyeux dont nous parlait Jean-Jacques Guibaud, ou n'importe quoi va, le Seigneur nous adresse une parole forte, et nous encourage à prendre position, à avoir des idées et des convictions fortes, à dispenser droitement la parole de Dieu. Il nous invite à être peut-être un peu plus ferme dans la défense, plus actif dans le service de la vérité. À faire, comme le disait mon neveu Nathan à Bruxelles, qui a joué au rugby, à faire des plaquages positifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un plaquage positif. Mais à mon avis, ça devait être un plaquage efficace. Mais attention, quand on parle de fermeté, quand on parle de plaquage efficace, ce n'est jamais dirigé contre l'individu d'en face, ou le voisin d'à côté, ou le contradicteur du dimanche. La suite du passage, au verset 25, que l'on n'a pas lu, nous parle d'une fermeté, oui, mais teintée d'amour, de douceur, de tact et d'intérêt pour l'autre. Il doit redresser en douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance. Ferme sur le fond, doux sur la forme. Et souvent, on fait le contraire, intransigeant sur la forme et mou sur le fond. Que notre Dieu d'amour et de vérité nous donne de vivre cette fermeté dans la douceur. Et puis, quatrième et dernier point, garder confiance. C'est, je pense, l'appel que lance Paul au verset 19. « Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste. » Et il le lance en premier lieu à Timothée, que l'on sait un peu timide, et peut-être pas préparé à faire des plaquages même positifs. Mais comme Timothée, on peut être troublé quand il s'agit de jouer la défense contre l'erreur, quand il s'agit de se mettre au service de la vérité. Mais Paul dit à Timothée de garder confiance. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Et il semble que Paul ici s'adresse à l'Église. C'est elle qui va durer. Ce n'est pas Hyménée et Philète qui vont détruire l'œuvre de Dieu, l'Église, pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas l'erreur qui va triompher, mais c'est la vérité de l'amour de Dieu pour son Église, de l'amour de Dieu éternel pour son Église et pour ceux qui la composent, évidemment. Et je crois que l'on a aussi besoin d'entendre cela, nous qui ne sommes pas beaucoup plus gaillards que Timothée. Dans la défense de l'Évangile, de la vérité de l'Évangile, ils nous font savoir que nous pouvons faire confiance en Dieu, que dans la lutte contre l'erreur et pour la vérité, nous n'avons pas besoin de nous crisper, de nous replier sur nous-mêmes, ni de paniquer. Après tout, cette vérité à défendre, c'est la sienne. Et j'aime me rappeler cette phrase qu'un autre a dite, « La vérité ne nous appartient pas, mais nous lui appartenons ». Et cette phrase nous situe bien par rapport à cette question de la vérité. Nous ne sommes pas des porteurs de la vérité partis en croisade contre le monde, mais des hommes et des femmes portés par la vérité, portés par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a un temps, l'Union des Églises Libres avait un périodique qui s'appelait « Pour la vérité ». Et ça venait d'un verset de Corinthiens, « Nous n'avons aucune puissance contre la vérité, mais pour la vérité », dit Paul. Et donc il y avait ce journal de l'Union d'Églises « Pour la vérité », moi j'ai fait partie du comité de rédaction, Yvonne aussi, en créant le journal, un certain Maurice Antonin, fixait le but de ce journal. C'était de dire la vérité de l'Évangile au travers de voies diverses, mais avec une seule inspiration, la foi au Christ de la Bible. Pour la vérité, il parle du journal, pour la vérité, ne confisque pas la vérité, il lui rend témoignage. Que le Seigneur nous donne d'être des témoins positifs. Et fermement doux de la vérité de l'Évangile dans notre monde, parce que Dieu aime ce monde. Oui, que le Seigneur nous donne d'être des témoins de la vérité par sa grâce et pour sa gloire. Amen. monde puisse croire et avoir la vie éternelle. Oui, merci pour cette vérité de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, pour ce monde et pour chacun d'entre nous.